Bonjour à tous, merci d'écouter France Culture, il est midi. Tout de suite, quelques titres du journal de 12h30, présentés aujourd'hui par Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour. La terreur a donc une nouvelle fois frappé, cette fois aux États-Unis, dans un lieu festif, le Pulse, très prisé de la communauté homosexuelle d'Orlando, en Floride. C'était un samedi soir, il y avait beaucoup de monde et le bilan est très lourd. On compte une cinquantaine de morts. C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Sur place aux États-Unis, ce drame survient en pleine campagne présidentielle. Le candidat républicain Donald Trump montre du doigt un pouvoir faible et inefficace. La candidate démocrate Hillary Clinton, quant à elle, rend hommage à la communauté homosexuelle. C'est à partir d'aujourd'hui que le projet de loi travail passe devant le Sénat pour un vote solennel le 28 juin. LR est très critique sur ce texte, lui reprochant de ne pas aller assez loin dans la flexibilité du travail. Position moins unanime à l'UDI, nous en parlerons avec notre invitée, la sénatrice UDI Chantal Joanneau. Total condamné pour une explosion mortelle à Carling, en Moselle. Cela s'était passé en 2009. L'explosion dans une usine avait fait 2 morts et 6 blessés. La filiale produits chimiques du groupe pétrolier français vient d'être condamnée à 200 000 euros d'amende. Le directeur de l'usine à l'époque des faits écope, lui, d'un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Midi passé de 2 minutes sur France Culture, on retrouve Caroline Brouet pour La Grande Table.
La Grande Table, Antoine, qui va s'intéresser aujourd'hui dans les deux parties à l'image, pouvoir des images, puissance des images. Elle est au cœur, en effet, du travail de nos deux invités de première partie, Johanna Hadjithomas et Khalil Joreich. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes à la fois artiste, plasticien, cinéaste, vidéaste. Vous avez déjà exposé dans le monde entier à la Biennale d'Istanbul, de Lyon, de Venise, en Inde, en Corée du Sud, à Londres, au British Museum, à Paris, au Musée d'Art Moderne, au Centre Pompidou et désormais au Jeu de Paume, où l'on peut voir une exposition de vous qui s'intitule « Se souvenir de la lumière » jusqu'au 25 septembre prochain. Vous êtes aussi donc l'auteur de longs métrages qui ont reçu de nombreux prix dans plusieurs festivals et vous avez fait l'objet de rétrospectives aussi bien à Paris qu'au MoMA de New York. Rétrospective, est-ce que c'est comme ça que vous avez pensé ce travail ? Même si ça n'est pas exhaustif, ce qu'on peut voir au Jeu de Paume à Paris, ou est-ce que vous avez plutôt pensé ce travail, ce souvenir de la lumière, comme plusieurs regards ou plusieurs facettes de votre travail ? Johanna Hadjithomas.
Ce n'est pas une rétrospective, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'a pensé, mais plus comme une traversée autour de nos images, des images qu'on a commencé à montrer à la fin des années 90, et jusqu'à aujourd'hui. L'idée était il y a plusieurs salles, il y a plusieurs moments au Jeu de Paume, c'était à chaque fois de poser une question en rapport avec les images. Les images, par exemple, comment la violence affecte les images, parce que nous ne faisons pas des images de violence, mais la violence les affecte d'une certaine façon. Ça, c'est plus au tout début de notre travail, à la fin des guerres civiles libanaises, ou comment on redonne une puissance aux images, en les retirant du flux, en travaillant les images latentes, les images rémanentes, les images, l'évocation dans les images. Et voilà, c'est que chaque fois, c'est une question, ou comment la poésie aujourd'hui doit être invoquée parfois pour contrer cette impression de chaos. À chaque fois, il y a une question qu'on pose à travers des œuvres qu'on a faites durant ces dernières années.
Alors, on va rentrer dans votre exposition dans un deuxième temps avec tous les deux. D'abord, discuter justement de toutes ces questions qui vous traversent depuis une vingtaine d'années maintenant, tous les deux. Et la façon dont vous vous y prenez aussi. Je disais que vous étiez à la fois des artistes plasticiens, des vidéastes, des cinéastes. Votre travail est toujours à mi-chemin entre plusieurs supports, la photo, la vidéo, des documents d'archives, l'installation. C'est toujours un travail sur la mémoire, sur l'histoire de votre pays, le Liban, mais aussi une réflexion donc sur la puissance de l'image ou son pouvoir, sur la représentation de la réalité. Rappelez-nous, Khalil Jorayj, comment est né ce besoin de créer pour vous, sur ces multiples supports, à partir de ces thématiques-là.
En fait, on n'a pas étudié l'art ou le cinéma, on ne se destinait même pas à devenir artiste, mais on a vécu une situation particulière où on a commencé à se poser des questions qui étaient surtout sur notre propre rapport au présent. Comment vivre dans les après-guerres, comment vivre avec certains rapports à l'image auxquels on n'arrivait pas à croire. C'est des questions très simples qui nous ont chaque fois entraînés à devoir les aborder presque de façon frontale. C'est-à-dire que ça soit aussi bien après les années 90, à la fin des guerres civiles, où on devait se poser des questions de... Comment faire pour que ça ne se reproduise plus, ou même après 2000, une autre guerre en 2006 où on s'est posé la question du cinéma, quel genre de film peut-on faire après une guerre comme ça, et on a invoqué ici Catherine Deneuve pour essayer de refaire une expérience ensemble. Donc on se définit plus comme des chercheurs que comme des cinéastes ou des... D'ailleurs, notre travail se fait par... corpus d'œuvres. On va s'intéresser à un moment aux arnaques sur Internet. C'est le dernier projet sur lequel on avait travaillé. Avant ça, on a travaillé sur le projet spatial libanais.
Ça a donné lieu à un film, d'ailleurs.
Ça donne lieu à un film, à des œuvres. C'est des corpus de travaux dans lesquels... Et ici, l'exposition... Au lieu de reprendre cette chronologie de corpus, on a voulu mélanger les œuvres de différents champs pour voir comment elles interagissent, comment elles créent autre chose.
Il y a deux choses qui me font réagir à ce que dit Khalil Jorayj, Johanna Agitoma. D'abord, le rapport au présent, et puis le rapport à la recherche, enfin le travail de chercheur qui est le vôtre. D'abord, sur le présent, c'est vrai que je disais, votre travail consiste à pister les traces de l'histoire, souvent effacées d'ailleurs, à aller trouver les empreintes ou les vestiges laissés par la guerre ou laissés par... Des conditions de détention, vous travaillez aussi sur les conditions de détention, on va y revenir. Et on pourrait croire à ce titre que vous travaillez plus sur le passé, sur la mémoire de ce qui reste. Or, effectivement, vous le revendiquez comme un travail de présent, c'est être présent au monde qui vous intéresse.
Tout à fait. En fait, quand nous réactivons le passé, c'est toujours pour le faire dans ce temps-là, aujourd'hui, dans le temps présent. Nous, les axes de notre travail, ce qui nous attire en général vers un sujet ou un autre, c'est d'abord les constructions d'imaginaire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous portons des imaginaires en nous. Comment se construisent ces imaginaires? Comment s'écrit l'histoire? Qui l'écrit? Donc très souvent, nous avons affaire aussi à des histoires tenues secrètes, ce qu'on appelle des anecdotes étymologiquement, des histoires tenues secrètes. Et c'est ça qui est notre premier moteur en général. Bien sûr, quand on réactive un projet spatial dans les années 60, c'est pour parler totalement d'aujourd'hui. C'est pour dire qu'est-ce qui s'est passé entre les années 60 et aujourd'hui? Où sont nos rêves? Quelle est la foi et la représentation que nous avons de nous-mêmes? Vous voyez, c'est chaque fois ce genre de choses qui nous intéressent. Et le présent, bien sûr, parce que voir une image, c'est déjà dans l'exposition, ce qui est très important, c'est que nous ne montrons pas, nous n'érigeons pas, nous appelons la participation de l'autre. L'autre est appelé à prendre des morceaux.
L'autre,
des
c'est
photos,
nous, public. Hein
le public, exactement. À prendre des morceaux d'une photo, à prendre des cartes postales, à se mettre dans une certaine position pour regarder. Donc, nous faisons le travail ensemble. C'est un lieu d'expérimentation pour repenser le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si l'on peut le faire ensemble.
Même si votre travail est ancré dans une histoire très particulière, très singulière, qui n'est pas forcément celle du public français, en l'occurrence, puisque je prends juste un exemple, ce projet spatial libanais qui date des années 60, qui a été complètement oublié. Nous l'ignorions sans doute encore plus que vous, quoique. Mais le fait de faire participer le public, où qu'il soit, ça dit quelque chose du rapport universel aux images et au rapport de la représentation de la réalité. Là, vous sortez de votre histoire, donc vous y êtes en plein et en même temps, vous invitez le spectateur à sortir avec vous, Khalil Jorayj.
Tout à fait, le fait d'être... En fait, on part toujours de quelque chose de terriblement spécifique. Et c'est dans cette spécificité qu'on arrive, quand on considère que ça marche, c'est quand elle arrive à faire écho à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que Johanna et moi, une grande partie de notre travail consiste à définir des territoires. Mais ces territoires ne sont pas forcément géographiques, ils peuvent être temporels. Et c'est le fait d'être ensemble, c'est ce contemporain. Donc c'est le moment où on va trouver des enjeux, notamment au travers l'image ou l'expérience, comme Joanna vient de le dire, une exposition comme étant une expérience partagée, que cette idée de contemporain va se faire. Je peux me sentir plus proche de vous que de mon voisin à Beyrouth. Et c'est cette proximité-là qu'il faut commencer à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons des enjeux qu'on peut partager.
C'est pas mal de rappeler ça.
Parce que Joanna, c'est vrai qu'on voit bien avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, comment les communautarismes, les nationalismes, il y a toujours, on est dans l'adversité, dans l'affrontement. Et nous plaidons beaucoup pour un territoire d'art, de cinéma, de partage, qui n'est pas un territoire géographique, justement, où nous pouvons construire quelque chose d'autre sans tenir compte de ce qui se passe, de nos nationalités. Donc c'est vrai que quand on vient du Liban, on peut être totalement au Liban, ancré, tout ce qu'on fait est totalement ancré au Liban, mais ça peut parler au reste du monde.
De la même façon qu'on peut être ancré totalement au Cambodge et que les images qu'on montre, qu'on filme, qu'on met en scène peuvent parler à tout le monde. C'est le cas du travail, des travaux, des films de Riti Pan. Votre propre travail à tous les deux, Joanna Adjitoma et Khalil Jorej, m'a fait penser au moins au dernier film, à l'avant-dernier en l'occurrence, puisqu'il y en a eu un autre à Cannes maintenant, de Riti Pan, L'image manquante, où il partait à la fois de deux types, de deux régimes d'images, des figurines anglaises qui représentaient son histoire personnelle, l'histoire de son peuple, et des images d'archives qui représentaient l'histoire collective, et il essayait de naviguer entre les deux pour raconter ce qui n'a pas d'image. Et il disait, ce qui n'a pas d'image, c'est la souffrance du peuple. Écoutez ce qu'il dit de la position qui est la sienne entre recherche, comme vous, dimension anthropologique de son travail, et art. Voilà ce qu'il dit de l'art.
Je crois que cette forme artistique, c'est justement, c'est nous permettre de nous battre contre l'effacement, quoi. Quand un philosophe, je crois que c'est Donano, qui disait que après Auschwitz, la poésie n'est plus possible. Moi, je n'ose pas le dire, le contredire il y a quelque temps, mais au bout de 20 ans, 25 ans de travail, je pense sincèrement que justement la poésie, l'art doit lutter, c'est un meilleur moyen de lutter contre l'effacement.
Chez vous aussi, Joanna Adjitoma et Khalil Jorej, l'effacement, c'est au cœur de votre travail, lutter contre l'effacement.
Lutter contre l'effacement et réfléchir aussi notre présence d'une certaine façon, mais en tant qu'individu, en tant que sujet singulier. C'est vrai que, par exemple, en 2006, quand il y a eu une grande guerre au Liban, on ne savait plus du tout quelles images on devait faire. On était très perdus. Et je pense qu'invoquer l'art, invoquer le cinéma, invoquer comme au jeu de paume aujourd'hui aussi la poésie, c'est très important. Au contraire, c'est-à-dire c'est le moment où on a besoin et de la fiction et de la beauté pour redevenir, comme dans le camp de Khiam, il y a tout un film qu'on montre au jeu de paume où on voit bien que des détenus qui passent entre 6 et 10 ans dans un camp de détention, dans des conditions très difficiles, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils essayent de faire des objets qu'ils considèrent, eux, des objets utilitaires, mais aussi artistiques, de façon totalement clandestine.
Des petits sacs, des petites figurines, là aussi, oui, qui sont brodées, des colliers.
Oui, c'est très fort de voir ça.
Allez, Jorej.
La question, dans Riti Pan, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de croisements, surtout quand il a travaillé aussi sur S21. Il y a l'idée de... On ne lutte pas simplement contre un effacement, c'est-à-dire la question de, il y a les réécritures d'histoires, et il y a aussi les histoires qui reviennent nous hanter, les fantômes de ce passé-là qui sont autant de résistance au vernis qu'on essaye de poser, les vernis modernistes, en disant voilà, ça c'est un accident, c'est passé, etc. Et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose qui craquelle, il y a des latences qui ressurgissent, qui sont involontaires, on peut pas les provoquer, elles ressurgissent. Les fantômes reviennent toujours. Les revenants reviennent.
Mais vous avez justement, tous les deux, un travail qu'on peut voir au jeu de paume sur les images, ce que vous appelez les images latentes, et vous en avez déjà parlé, Johanna Agitoma, et les images rémanentes. C'est un travail qui date du début des années 2000, puisque cette exposition brasse différentes époques, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce travail, les images latentes, les images rémanentes, qu'est-ce qu'on voit ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde produit énormément d'images. Donc quand vous êtes photographe ou vous avez travaillé l'image, quel genre d'image on a besoin aujourd'hui ? C'est-à-dire c'était aussi au cœur de l'exposition du Jeu de Paume avec la commissaire Martha Gilly, on en parlait beaucoup, c'est quelles sont les images nécessaires pour, il ne s'agit pas seulement de montrer des images, il s'agit aussi de provoquer quelque chose quand on montre des images. Et donc au début, c'est vrai que dans les années 2000 au Liban, il y avait tellement d'images autour de nous, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème d'image ou de mémoire, c'est un effacement étrange qui se produit, ce n'est pas un effacement parce qu'il n'y a pas d'image, c'est un autre genre, parce que peut-être nous n'arrivons plus à lire les images, c'est très différent. Donc comme il y avait tellement d'images, à un moment on s'est dit, si on retirait nos images du flux et qu'on les donnait à lire plutôt qu'à voir, qu'est-ce qui se passerait ? Et on avait depuis un moment travaillé autour d'un personnage de fiction qu'on a appelé Abdallah Farah, qui serait un photographe qui a fait des photos de façon très traditionnelle dans les années 60, qui ont permis de faire des cartes postales, une image un peu idéalisée du Liban. Et durant les guerres civiles libanaises, il les aurait brûlées pour les rendre conformes à son présent et aux bâtiments qui disparaissaient ou qui étaient altérés par les bombardements et qui n'avaient plus de possibilité toujours d'avoir du papier, des produits pour développer ces images et qui petit à petit s'est mis à les noter et à ne plus les développer, a comme ça entrepris de faire des images latentes et d'en faire comme un journal. Et ça, c'est vrai que c'était un peu notre journal qu'on a pendant 10 ans, de 1996 à 2007, nous avons, sous les traits d'Abdallah Farah, ce personnage de fiction, fait un journal d'images latentes où nous n'avons pas développé nos images. C'est venu de façon très organique au départ et puis après ça s'est systématisé et on en a fait toute une installation, un journal des 10 dernières années, 97 à 2006.
Alors ça, c'est pour les images latentes, les images rémanentes, Ali Rejoureich ?
Le risque de la latence, c'est que les images peuvent disparaître. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les images latentes peuvent s'effacer.
S'effacer. On y revient.
Alors qu'on travaillait là-dessus, etc., je trouve en 2001 un film que mon oncle a fait. Mon oncle fait partie des 17 000 disparus au Liban. Un disparu, c'est une personne qui a été kidnappée et dont on n'a jamais retrouvé la moindre trace, ni le corps, ni les conditions parfois de son enlèvement. Et le Liban, qui est un tout petit pays qui est extrêmement urbanisé, on ne trouve rien, pas de traces. Mon oncle a été kidnappé en août 85, on était très proches, on vivait sur le même palier, et je trouve un film et je viens... Et c'est un film qu'il avait fait, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'envoyer au laboratoire. Et la plupart des laborantins, des experts que j'étais allé voir, m'avaient dit « mais si tu le développes, il ne sortira rien ». L'image sera voilée. Et là, on est confronté à une situation un peu comme celle des familles des disparus. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans l'attente et l'espoir qu'un jour il va revenir ? Parce que tout est bloqué pour un disparu, c'est-à-dire que le compte en banque, il peut toujours revenir. Ou est-ce qu'il vaut mieux déclarer sa mort pour pouvoir essayer de vivre, ou en tout cas entreprendre quelque chose ? J'ai décidé après toutes les recherches de développer le film, il est sorti voilé, mais à ce moment-là, on a décidé de les scanner une par une. Et à travers un travail sur le contraste, les couleurs, une image est revenue, et une image étrangement fantomatique. C'est cette image rémanente. Et dans les sociétés comme les nôtres, je pense, y compris à celle du Cambodge et à d'autres pays qui ont connu des crises très très importantes, les fantômes reviennent, ou sinon on devient, comme dirait Jalal Toufi, qui est un auteur irakien qu'on aime beaucoup, on risque de devenir des zombies dans le sens de Hamlet. Hamlet voit le spectre de son père, sa mère ne le voit pas. Un zombie est quelqu'un qui ne voit pas, ne sent pas, n'entend pas.
Il s'appelait Asaf Kadri Bek. Alef Sad F. Tu as vu ?
Ah oui.
Mon père était camarade de classe d'Atatürk. Mais il n'était ni nationaliste arabe, ni nationaliste turc. Il était ottoman. Il trouvait que l'Empire ottoman était bien. Ça, c'était Janson. Je ne sais pas comment il a survécu. À cause de sa taille. Alors ça, c'est quand il a eu une décoration du sultan, c'est ça de la décoration. Ça, c'est le sceau du sultan. Et ça, c'est écrit à la main. C'est la citation des faits de gloire. Il a dû l'avoir en 1915. C'est après la bataille des Dardanelles, ça a dû être.
Ton père était fier de ça ?
Oui, ça, il était vraiment fier. D'autant plus qu'en 1918, à 38 ans...
Alors, ce souvenir de la lumière, Johanna Agyi-Thoma, c'est votre exposition au Jeu de Paume qui comporte donc quelques travaux des années 90, d'autres des années 2000. Et puis, il y en a deux qui sont tout à fait récents. Il y a ce souvenir de la lumière sur laquelle on va revenir dans un instant. Et puis, ce qu'on vient d'entendre en extrait, ce film « Izmirne ». Qu'est-ce qu'on entendait ? Qui on entendait ?
C'est un film qui est en conversation avec une grande poète et peintre qui s'appelle Etel Adnan, qui nous partageons, Etel et moi, depuis 15 ans, une amitié qui s'est aussi construite autour d'un lieu qui était un lieu un peu imaginaire pour nous. C'est la ville de Izmir, anciennement Zmirne, en Turquie. Mon grand-père paternel est né à Zmirne. Et en 1922, sa famille en a été chassée, c'était un grec, et on a vécu à Beyrouth, mais dans d'une certaine façon un peu à Zmirne aussi, parce que ça a été quelque chose qui a été très traumatique pour lui et très fort. Et en même temps, quand j'ai rencontré Etel, son père, sa mère était grecque, née à Izmir aussi, et son père était syrien, officier de l'Empire ottoman. Donc ça disait aussi quelque chose de très intéressant, non seulement sur ces lieux où elle aussi, elle a grandi dans ce paradis perdu qui était celui de sa mère, et un lieu où nous n'avons jamais été, ni elle ni moi. Et pendant 15 ans, on a eu envie d'aller toutes les deux à Izmir, mais on ne l'a jamais fait pour de multiples raisons, comme parfois on ne fait jamais les choses très importantes pour nous. Et cet été, l'été dernier, on a été, Khalil et moi, à Izmir, ramener des images. En fait, on voulait mettre des images sur cet imaginaire sans images qui nous a totalement constitués, elle et moi.
Quand on vous entend parler l'un et l'autre, on se rend compte qu'il y a à la fois de l'histoire d'un pays, de l'histoire du monde, de l'histoire d'une région et, encore une fois, de l'histoire personnelle. Chacun de vous convoque son grand-père avec son histoire familiale aussi. Il se trouve que vous travaillez ensemble depuis près de 25 ans, que vous formez, c'est pas un secret, vous formez un couple à la ville comme à la Seine. Comment vous répartissez-vous les tâches ? Là, ce film, c'est plutôt vous qui le portez, par exemple, Johanna, mais il y en a d'autres, comme celui que vous nous avez décrit tout à l'heure, sur ce film de votre grand-père Khalil que vous portez, vous. Comment vous travaillez ensemble ?
Il ne faut jamais que le personnel ne concerne que la personne. C'est-à-dire qu'il faudrait, en travaillant à deux, ça nous oblige justement à devoir s'ouvrir. Bien sûr, en parlant d'un fait aussi précis comme le film de mon oncle ou de mon oncle, qui a amené à un autre long métrage qui était A Perfect Day, où là, Izmirne, qui vient de l'histoire spécifique de la famille de Johanna, en même temps, j'y ai... Bien sûr, chaque fois, il y a quelqu'un qui va commencer le projet parce qu'il y voit quelque chose. Et après, l'autre va se sentir... C'est-à-dire que Zmirne, c'est aussi mon film. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un projet commun. Ce n'est pas ma famille.
C'est-à-dire, oui, voilà, parce qu'en fait, notre travail, c'est aussi un projet de vie, quelque part, ce projet de cinéma ou d'art. On a commencé à travailler ensemble. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a fait tous nos films, tout ça ensemble. Beaucoup de gens me disent, mais alors, quand est-ce que tu vas faire un truc tout seul ou lui aussi?
Ah bon, oui, dis-moi.
Mais en fait, voilà.
Mais on essaye de travailler l'ensemble, voilà. Ça ne marche pas.
C'est-à-dire que ce sont toujours des rencontres. À un moment, il y a une rencontre. rencontres et nous suivons ces rencontres-là, ou une lettre qui apparaît, ou un timbre pour la Lebanese Rocket Society, des arnaques sur Internet qui sont arrivées chez nous et on s'est mis à les accumuler au lieu de les jeter. Et avec Etel, c'était ça, c'est-à-dire que le projet intéressait autant Khalil que moi. Au départ, bien sûr, c'est peut-être que l'impulsion n'est pas la même. Je commence un projet, il arrive, il ne sait pas s'il veut y en être, et après finalement, j'ai réussi toujours à l'embarquer ou lui à m'embarquer. Parce que ce sont des, comme disait Khalil, ce sont des rencontres et des moments où on pense que on peut être beaucoup plus inclusive, parce que c'est aussi un lieu de partage. L'art, le cinéma, pour nous, c'est vraiment un lieu de partage, et ça, c'est extrêmement important.
Alors, je ne sais pas auquel de vous deux je vais poser la question de se souvenir de la lumière qui donne son titre à l'exposition française, à l'exposition à Paris au Jeu de Paume. Se souvenir de la lumière, c'est aussi un petit projet de film. Il y en a deux, mais j'aimerais mieux que ce soit vous qui les racontiez. Vous parliez, vous parliez des couleurs tout à l'heure.
Oui,
et l'effacement des couleurs, on est vraiment là dans quelque chose de très poétique.
Bah, ça venu couleurs. D'une expérience qu'on a faite tous les deux, parce que nous sommes tous les deux plongeurs. Et en fait, quand on plonge, plus on descend, plus l'eau va filtrer le spectre lumineux. Donc on va perdre petit à petit des couleurs. On va perdre le jaune, le rouge, le jaune, l'orange, l'orange, le jaune,
parce
le
vert, dans l'ordre.
Le bleu.
Voilà.
Il y a un ordre. Jusque se retrouver dans les abysses où c'était tout noir. Et si on met une lumière à ce moment-là, alors qu'il fait tout noir, et qu'on l'éteint, le plancton va se souvenir de la lumière et devenir bioluminescent. Fluorescent. Et donc on a eu envie de travailler sur ce rapport où on assiste à une sorte de rétrécissement des couleurs de notre monde.
Alors on voit sur le premier film, on voit un foulard très coloré, avec donc toutes ces couleurs couler au fond de l'eau. Il se déplace comme une pieuvre, alors c'est très très beau, hein. On dirait vraiment une pieuvre quand on regarde, non, c'est un foulard,
c'est vivant,
et
oui.
Progressivement il perd ses couleurs.
Ça a été un très, très bon acteur, le foulard, vraiment, je dois dire qu'il a été au-delà de nos espérances.
Parce qu'il y a un deuxième film avec des plongeurs.
Des plongeurs, parce qu'au départ on se demandait comment montrer physiquement cette disparition de couleurs. Ça nous a semblé aussi très important d'en parler aujourd'hui. On sent quand même, il y a une sorte, les temps sont, c'est très difficile aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dans le monde, il y a des temps très troubles. Donc on voulait revenir absolument à cette idée de quand, même quand on tombe de plus en plus et qu'on tombe toujours à côté de l'histoire, parce que le foulard tombe, mais il passe à côté d'un tank, d'un cargo abandonné. Il y a aussi des vestiges de l'histoire qu'on peut invoquer. Et puis il y a toujours un moment même où on remonte à la surface.
Attendez ce moment.
Voilà, exactement. Parce qu'au départ, on a commencé avec des plongeurs qu'on a habillés avec des couleurs différentes, mais tout d'un coup, quand il tombait, et ça n'était plus du tout pareil, c'est avec tout ce qui se passe en Méditerranée, c'était impossible de les regarder différemment. Mais on les a quand même gardés.
Automatiquement, les migrants, ça évoque d'autres histoires.
Voilà, on a trouvé ça très fort, on les a gardés, et après, pour cette histoire de couleurs, on a eu l'actrice, l'écharpe, le foulard, et donc voilà, mais c'est ça, c'est ce souvenir de la lumière.
Ce souvenir de la lumière qui donne donc ce très beau titre à votre exposition, Johanna Hadjithoma et Khalil Jorej, une exposition qui se tient au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 25 septembre. Il y aura bien sûr, d'ici quelques jours, un catalogue. À tous les deux, on se quitte sur cette musique de Rimar Sheikh et on vous retrouve peut-être après le journal pour parler de la puissance des images en notre compagnie. Dans un instant, en tout cas, c'est le journal et la suite de la Grande Table.